Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble!
Vite, paf, droite, gauche, droite. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Lymphe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent Sicot parler, bienvenue sur le podcast.
En direct d'un 2,5 semi-meublé de Rosemont, Montréal, c'est ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Là, tenez-vous bien, ça fait 8 jours de suite que je travaille. Je fais de l'overtime au travers. Pensez pas que je suis du genre à pas me pencher pour ramasser une pièce quand il y a une pièce à terre. T'échappes une pièce à terre, je me penche, je ramasse. Fait que là, je travaille en sauvage. Tantôt, je m'en vais souper avec du monde assez beau, merci, à un restaurant de hamburger qui s'appelle Mange dans mon hood. Quand vous allez écouter le podcast, je vais probablement être en train de croquer dans une délicieuse galette juteuse. Mange dans mon hood, ça c'est en face de l'hôpital Jean Talon à la petite Tonkinoise. Eux, le gars dit à son père, « Peux-tu prendre le sous-sol pour faire des burgers? » Son père il a dit, « Fais ce que tu veux. » Finalement, c'est devenu une institution pour manger des hamburgers. Cette publicité gratuite, j'espère qu'elle me donnera au moins un burger gratuit un jour. Donc, c'est ça. Je travaille en sauvage. Le Canadien a gagné 2 matchs, en a perdu 1. Des dossiers, j'avais même fait ça sur une feuille, j'ai perdu. Cette semaine, à ton podcast préféré, de qu'est-ce qu'on va parler? Je vais vous raconter l'histoire de A à Z du groupe Yvon Michel qui est sorti par Francis Paquin. C'est que moi, je la savais, l'histoire, c'est pas pour me vanter. Mais là, je me suis dit, des fois, je fais attention, là, je vais vous dire, j'ai rien d'ouvrir un sac de bonbons pendant que je vous parle. Des fois, j'ai peur de me faire poursuivre. Fait que je vais pas publier des affaires parce que, mettons que je me fais poursuivre. C'est dangereux que je perde le 2-3 millions que j'ai économisé depuis ma naissance. Mais quand, exemple, Francis Paquin sort quelque chose, lui, il est chez RDS. Fait qu'ils sont habitués aux poursuites puis ont des avocats. Moi, là, je me fais poursuivre, c'est fini. Là, je me ramasse à paille puis je dors dehors. Là. J'ai pas les moyens, fait que j'attends que quelqu'un d'autre pogne la même histoire que moi puis après ça, je la commande. C'est bien moins dangereux. Il y a une idée qui trotte dans ma tête. Puis là, tu sais quand... on fera pas ça tout de suite, mais mon sujet principal cette semaine, c'est David Benavidez. Donc, ce sera ton sujet principal, ton podcast préféré qui est commandité par fightnight.co. T'as envie de sacrer une volée à Siamak Ramati. Là, il y a tellement de monde qui veulent sacrer une volée à Siamak Ramati. Il va falloir faire plusieurs galas en 2023. Il y a même David-Alexandre Clapin qui a déclaré, et je cite, « Pour voir Sia manger une volée, je suis prêt à payer de gros prix pour des billets. » Donc, Sia, on va t'avoir dans le détour. Fightnight.co si vous voulez vous inscrire comme combattant, ou sinon, attendez bientôt, il va y avoir des annonces, vous pourrez acheter vos billets. On a appris cette semaine, Eye of the Tiger a annoncé 5 galas déjà dans le premier trimestre. On va en parler. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma petite feuille? Oui, David Benavidez. Cathy Taylor contre Chantel Cameron. Écoutez, là, préparez-vous. J'ai des petits sujets sur ma feuille. On va avancer ça tranquillement. On est présentement dimanche, 16h28. Faites-moi confiance, ça va revoler. Podcast présenté par fightnight.co. Présenté par Cité en forme, présenté par mon ami Benjamin Théberge. Allez lui écrire si vous avez besoin d'un graphiste ou d'un génie de l'imprimerie. Et bientôt, là, je vous avertis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Mais je travaille pour avoir une tonne de commanditaires. J'ai achalé le gars de Poche et Fils pour qu'il me commandite, puis il m'a dit, tu sais, Laurent, je t'aime comme un frère, mais quand je commandite quelqu'un, ça me prend un plan. Il faut que tu arrives structuré. Puis là, c'est ça qui manque. Je vais essayer d'installer un peu de structure dans mes affaires parce que le plan, je vous le dis, le plan, c'est pas où, c'est pas comment, c'est pas quand ou avec qui. Le plan, c'est que je devienne millionnaire à parler de boxe. Je veux devenir le premier millionnaire commentateur de boxe du Québec. Tu sais, aux États-Unis, là, t'as ça, Max Kellerman, millionnaire. T'as l'autre, là, Dan Raphaël, millionnaire. Au Québec, c'est qui est millionnaire avec la boxe? Des commentateurs. Matt Cazavant, je pense pas qu'il est encore millionnaire avec la boxe. Jeff Jeffrey, je pense pas qu'il soit millionnaire. Manny Montréal non plus. Donc moi, c'est ça mon plan. Devenir le premier millionnaire avec les commandites de boxe. Ça va être le nom de mon podcast aujourd'hui. En route vers mon premier million. En direct de ton premier sujet, David Benavidez. Et là, vous allez à la maison, là, vous allez tomber en bas de vos souliers. Okay? Je vous là, présentement, j'enregistre un podcast de boxe. Tenez-vous bien. Je n'ai pas écouté le combat. Puis, je vais vous en parler. Okay? Ben, là, ça dit, Poulain, t'es tombé sur la tête. Mais là, écoutez, là, je travaillais hier. Je travaillais aujourd'hui. Je n'ai pas écouté le combat. J'ai simplement regardé les... J'ai tout lu aujourd'hui en travaillant. Mais... on s'en fout du combat, on s'en fout pas, mais ça, c'est de l'honnêteté, OK? Je fais un podcast de boxe sans avoir vu le combat. Ça a comme aucun sens, OK? Mais je le fais quand même. Dimitrius Boubou Andrade, c'était un boxeur que j'admirais. C'était un boxeur que je trouvais tellement d'une grande efficacité puis que personne voulait tellement affronter. Puis lui aussi, ça avait l'air compliqué de... essayer de se battre contre Dimitrius Boubou Andrade. Mais là, Andrade, il faut dire, il a eu des, ce que vous autres vous appelez des grosses balles, puis il a accepté d'affronter Benavidez. J'ai écouté, je salue, mon bon ami Matt Cazavant. Quand vous avez fini mon podcast, vous avez le droit d'aller écouter le podcast de Matt Cazavant. Ça ne me dérange pas, mais finissez le mien avant. Puis Ross Amber disait, il y a deux options à ce combat-là. Soit que Andrade sorte vraiment fort puis qu'on a une bagarre puis c'est serré, ou soit que Andrade il tombe en mode survie puis il est juste pas capable de gérer l'agressivité de Benavidez. Là, j'ai vu que Benavidez a gelé. Andrade, je pense au sixième, il arrête le combat. C'est ça, parce qu'il est comme trop fort. Mais là, Benavidez... c'est impressionnant. Okay? Je regardais le monde qu'il a battu. Il a été deux fois champion du monde. Il a perdu une fois son titre pour la Coca-Win. Puis il a perdu une fois son titre sa balance. Il n'a jamais perdu. Après ça, il arrive à 168. Mais là, il a quand même battu Caleb Plante. Là, il bat Dimitrius Andrade. Il bat le mieux en un round. Là, tout le monde évite. Tout le monde l'évite un peu. Pendant ce temps-là, t'as Canelo qui bat un Charlo gonflé qui part d'une autre catégorie de poids, puis qui bat John Ryder un peu flat. Okay? Mon point que je veux vous dire, mais je vais vous dire dans... Bon, je vais vous le dire là. Le point que je veux vous dire, c'est est-ce que le combat entre Benavidez et Canelo est encore utile? Oui, il est utile si t'es le banquier de David Benavidez. David Benavidez. Mais est-ce qu'il est encore utile? Je veux dire, Canelo, là, il a beau avoir toutes les ceintures, là, on a des yeux en dessous du front. On le voit que Benavidez y est trop fort. On le voit que Benavidez, avec ce qu'il a fait à Plante, avec ce qu'il a fait à Andrade, on le voit que dans la division, c'est à lui qu'il faut donner le poste de numéro 1 puis que c'est plus à Canelo. Je veux dire, on peut bien vanter Canelo le reste de notre vie. Là. On peut bien, ils peuvent bien lui laisser les quatre ceintures pour qu'on s'énerve puis qu'on festoie. C'est fini, mais c'est pas fini, Canelo. Mais c'est Benavidez, le numéro 1. Puis Canelo, si tu veux pas l'affronter, garde tes ceintures, puis continue à t'amuser à frapper sur des piñatas le 5 mai. C'est pas grave. Le boxeur numéro 1 de la division, c'est David Benavidez. Puis fuck you, Canelo. Hein, je l'étudie, j'espère que je me ferai pas censurer. Mettre un bip sur le fuck. Fait que là, Benavidez, il est champion intérimaire de la WBC. Qu'est-ce qu'il va faire? Je le sais pas. Lui, ses propos, c'est que Canelo n'a plus personne à affronter d'autre que lui. Tu sais, il peut pas. Il va faire quoi, Canelo? Il va affronter John Ryder? Il va affronter l'autre Charlo? Il dit, lui, il n'y a personne à affronter. Bon, là, moi, quand même, là, j'ai fait une liste, puis je n'étais pas super d'accord. Canelo pourrait affronter son homologue. Là, ça va faire de la peine aux gens d'Eye of the Tiger, mais j'ai fait la liste logique de qui Canelo peut affronter. Et non, il n'y a pas Mbili Basignan dans la liste. Okay? La liste logique des adversaires pour Canelo présentement. En pensant qu'il veut éviter Benavidez, OK? Et qu'il veut éviter David Morel. Des gars trop dangereux. Ben, on la liste. James Munguia. Munguia, il boxait à 154 livres il y a 24 mois. Il est offensif, mais il y a eu des combats très difficiles. Terence Crawford, il était à 135 livres il y a 3 ans. Ça, ce serait genre à Canelo, mais Crawford boxe en joie le vert. Germal Charlot donne une revanche à Aufrère. Au lieu d'affronter Germel, t'affrontes Germal. C'était le plan initial avant que Germal rate le poids de 6 livres contre José Benavidez. Mais il affrontait le frère Benavidez. Pourquoi? Probablement pour faire du bruit, mais il a gagné, mais il a raté le poids. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une revanche contre Dimitri Bivol. On a quoi d'autre? Il tombe, il va fou, puis il décide d'affronter Arthur Beterbiev. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Edgar Berlanga à New York. Berlanga, le portoricain, disons que il n'y a pas trop de misère à vendre quelques billets. Errol Spence, le gars va fou, je sais pas, il décide d'affronter Errol Spence. On a qui d'autre? Diego Pacheco. Tim Zhu en Australie. Jaron Ennis. Caleb Plant ou David Benavidez. Oubliez ça. Là. Qu'est-ce qu'il va faire? Je le sais pas. Je le sais pas, mais c'est sûr qu'il a peur. C'est sûr que Canelo a peur. Là, je vais aussi répondre à la question. Qu'est-ce que Benavidez devrait faire, lui, en attendant? Ben, il pourrait affronter David Morel pour unifier les 168 livres. Il pourrait... Vous allez dire, Poulain, t'as rien de virer fou. Pourrait affronter Dimitri Bivol à 175, il en a parlé hier. Pourrait affronter Arthur Beterbiev à 175, trois ceintures de la shot. Il pourrait monter à 200 livres, affronter Jay Opetaia. Puis il pourrait, pourquoi pas, lui accueillir Terence Crawford à 168 livres. T'sais. Ça pourrait être drôle. Mais quand vous y pensez, Benavidez, il vient de battre David Lemieux, Ronald Ellis, Caron Davis, Caleb Plant. C'est facilement. Là, Demetrius Andrade, il va faire quoi, Jean? Il va toutes les swinguer. Puis David Morel s'en va contre Seno Agbeko. Ça fait pas de sens. Soit que les deux champions s'affrontent, soit que Canelo se fait pousser une paire de balles, ou soit, je sais pas. Puis là, pendant ce temps-là, parce que c'est un podcast québécois, on a Mbili qui se gratte la tête à savoir qui va lui donner une chance. Je dis, je ne sais pas, là. Mais j'aimerais pas être dans les souliers du promoteur d'Mbili qui est obligé d'essayer de se battre avec tous les noms puis les histoires, puis Canelo qui a peur de son nom, puis comment je sais pas comment qu'on va gérer ça. Je le sais pas. Donc, le point là, que j'aimerais qu'on se mette dans la tête, okay? Puis si on, mettons qu'on se le met dans la tête nous autres, là, après ça, on essaiera de convaincre le reste du monde entier, mais il faudrait qu'on se mette dans la tête que Benavidez, il est devant Canelo. Oubliez ça, là. Je veux dire, c'est pas parce que on t'établit numéro 1 que tu restes numéro 1 si tu refuses d'affronter les challenges. C'est pas, OK, t'as tous les titres, t'es numéro 1, puis là, il faut juste étirer ça le plus longtemps possible. Personne disait qu'Adonis était numéro 1 à 175 parce qu'il affrontait pas personne. Puis là, ben, on s'obstinait, puis on laissait tout le temps l'autre champion être le numéro 1, qui était Kovalev à une époque. Puis là, le combat n'avait jamais lieu. Puis c'était de même, tu sais. Ben là, c'est pareil. Canelo, tu as tous les titres. C'est toi qui fais le plus d'argent, mais on refuse de te donner le numéro 1 parce que ben, tu n'affrontes pas Benavidez. Fait que c'était ma grande histoire du combat de David Benavidez. Et je souhaite quand même que Andrade lance ses bottes et essaie de se relancer. Parce que moi, je suis un grand fan de Demetrius Boubou Andrade. Mais là, il faut admettre que David Benavidez, c'est une bête assez enragée et voire même... C'est un méchant malade, là. T'sais, il réhydrate quasiment. Il doit être à 190 livres dans le ring. Il frappe fort. Moi, David Benavidez, j'en ai peur. En direct de ta chronique maintenant, boxe québécoise, on a un peu viré les affaires, mais c'est parce que je trouvais que Benavidez, avec sa performance, méritait d'être le sujet numéro un de ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Podcast qui est là pour rester. Moi, je vais vous le dire, là, moi, je suis en amour avec mon propre podcast. Je vais m'arranger pour que ça reste pour toujours. On verra comment, mais ça va être là pour toujours. Je ne vais pas fermer ce que vous appelez le fil RSS. Là. Au pire, je ne sais pas, je vous enverrai des photos de moi ou des vidéoclips, mais ça va rester là pour toujours. Là, on a Francis Paquin, expert RDS de boxe. C'est Régent qui a sorti ça en premier sur BPM Sport. Et là, Francis, ça c'est bien pensé. T'sais, Régent arrive avec un petit texte en bas d'écran. Fait que là, Francis, lui, ramasse ça. Puis disons que c'était connu dans le monde de la boxe. Là. C'est juste Francis a comme pris la peine de l'enquêter. Contexte. Le 7 octobre dernier, la Régie des alcools, courses et jeux du Québec officie un gala du groupe Yvon Michel. Kim Clavel va perdre une décision serrée contre un adversaire dont j'ai oublié le nom, Evelyne Nazarena Bermudez, ma mémoire est bonne. Yvon Michel, colérique, je vais parler au conditionnel pour éviter les poursuites. Yvon Michel aurait été dans le vestiaire, dans le ring, il aurait tout de suite dit à Sylvie Lécuyer, on vous l'avait dit, et après, il serait allé dans le... On se compliquait par l'audit conditionnel. Il serait allé dans le vestiaire pour invectiver Benoît Roussel. Toutefois, il se serait trompé, puis s'en serait pris à Padoulot, puis après, à... Il cherchait Roussel et c'est Jean Douville qui l'aurait sorti de là. En gros, il aurait invectivé Sylvie Lécuyer et il aurait essayé de se rendre à Benoît Roussel. Il faut comprendre que la régie est installée au casino, c'est pas très difficile d'aller les rejoindre. Disons que j'ai déjà volé de la nourriture puis des bouteilles d'eau. Après tout ça, Benoît Roussel, on voit que ça brasse un peu. Et on lui demande de sortir accompagné de deux membres de la sécurité du casino pour l'accompagner à sa voiture. Parce qu'il y a des gens qui sont mécontents. Et là, à l'extérieur, j'espère que ça a été écrit. Hein, sinon, je vais être le premier à le dire, mais on va me faire poursuivre. Là, à l'extérieur, il y aurait... Mais je pense que c'est dans le... En tout cas, je vais le dire, là, au pire, je perdrai mes REER. Et là, rendu à l'extérieur, il y aurait eu Alexandre Croft qui, je pense, a déjà sorti, là, sinon je ferai de la modification. Alexandre Croft aurait dit à Benoît Roussel certains mots qui pourraient s'apparenter à un début de menace. T'sais, on verra quand ça va sortir. Et là, ben, tout ce beau monde-là est dans le trouble. Ce qui est arrivé, okay, c'est que Yvon Michel va rencontrer la régie le 5, 6, 8 et 9 février. Ils sont convoqués pour avoir exercé des pressions, menacé ou violenté un représentant de la régie bon renom du sport, exercice compétent et intègre, d'intérêt public, avis de convocation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, Yvon Michel a essayé d'organiser un gala le 1er février avant de passer devant la régie puis être possiblement suspendu 6 mois. Pourquoi? Pour garder tout ce beau monde-là actif, tu sais, Marie-Pierre Houle, Kim Clavel, Caroline Vert, il faut qu'ils boxent. Fait que là, ils disent, on va faire boxer à toute vitesse le 1er février. Après ça, on va aller à la régie. Mais là, je vais vous le dire. Moi, je vais vous dire les vraies affaires éventuellement. Les gens de la régie ont refusé arbitre, juge, inspecteur. Eux, c'est des pigistes. Quand tu leur demandes « Voulez-vous venir travailler? » Ils peuvent dire non. Tu sais, contrairement à moi qui n'ai pas le choix d'aller trier des boîtes demain matin, eux, ils peuvent dire « Ça ne m'intéresse pas d'aller travailler cette date-là. » Ils disent oui ou non. Le problème, c'est que là, ils ont tous dit non. Tu sais, ils ont dit « On y va pas. » C'est grave ce qui est arrivé. Et en support à Benoît Roussel, nous ne serons pas présents. Fait que là, je ne sais pas ce qui va arriver. D'un, je ne suis pas certain que ça aurait eu lieu au Casino de Montréal, parce que le Casino n'aurait pas toléré Marie-Claude Savard contre Cathy Gauthier de la boxe olympique dans son enseigne. Il y avait déjà eu une première histoire qu'on n'en veut pas. Mais là, la régie, là, il y a une certaine rancœur. Pourquoi? Parce que là, tu plantes Benoît Roussel sur les scores, OK? Benoît est apprécié. Là, tu fais la petite menace dehors. Mais les autres, ils se sont... C'est quoi le mot que je cherche, là? Ils ont été solidaires à Benoît Roussel. Et les gens de la régie sont un peu fâchés par la haute direction de la régie qui rencontre Yvon Michel 4 mois après les événements. Tu sais, moi, mettons, là, je sors de chez nous, puis je sac une volée à mon voisin, je vais probablement être en cours dans les 2-3 prochains jours. T'sais. Là, on leur laisse 4 mois. C'est un peu long. C'est un peu long, ça. Puis là, ils sont fâchés. Fait que, en gros, c'est ça. Je vais vous le dire, là. On a souvent l'impression qu'Yvon Michel a 9 vies. Mais là, ça sent vraiment la fin. Ben, je suis pas supposé vous le dire, mais ben oui, j'ai le droit. Ça, j'ai le droit de vous le dire. Le plus gros problème, c'est que Yvon Michel, là, son T4, en gros, qu'est-ce qui permet de manger puis d'envoyer ses enfants à l'école privée, c'est RDS.ca. RDS. Si jamais RDS dit « Regarde, t'as menacé un juge ou ta collègue a menacé un juge, c'est fini, on te remplace par Sébastien Gauthier pour animer avec Jean-Paul Chartrand », il est vraiment dans le trouble financièrement. Ici, il faut, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il ne sort pas souvent du casino, c'est le casino qui fait rouler tout ça. S'il faut que le casino dise, regarde, vous avez nommé des noms, vous avez fait des affaires, nous, on tire la plug. Là, il n'y a plus de casino, c'est fini. Il n'y a plus de groupe Yvon Michel. Fait, et où la ligne où tu peux menacer des gens? Le renom du sport, tu sais, t'es comme négatif. T'as pas sali le sport, mais t'as pas aidé l'image du sport. Et là, t'es quand même au casino. Je sais pas si vous le savez, mais le casino, c'est de l'argent public. Fait que là, l'argent public qui va aider un promoteur qui est en audience pour le bon renom du sport, tu sais, il y a un danger que Jean-François Bergeron, qui est le monsieur qui s'occupe des spectacles au casino et non pas l'ancien boxeur poids lourd, fasse « Nous autres, on tire la plug. » Et là, il est dans le trouble sur un moyen temps. Mais, on est bien au Québec, il va pouvoir aller rencontrer un juge, présenter sa version. Les gens de la régie vont présenter leurs témoins. Le juge va prendre son petit marteau, va swinguer 2-3 coups à la table et il y aura un verdict. Et je cherche mes mots, on dirait que je suis fatigué mort. Puis là, je voulais faire là, comme le meilleur podcast au monde, je voulais rentrer ça flush, comme vous dites les jeunes, puis je cherche mes mots. Faut pas que je me mette trop de pression sur ses épaules. Fait que c'est ça, ta chronique boxe québécoise. Du côté d'Eye of the Tiger, ils ont annoncé... 4-5 dates, OK? Mais moi, je vais vous le dire, je sais que je suis très écouté. J'ai appris il y a quelques semaines que la personne chez Eye of the Tiger qui se délecte de mes podcasts. Il y a quelqu'un qui attend mes podcasts. Elle m'a dit, Laurent, ton podcast avec un peu de crème glacée, c'est le plus beau moment de ma semaine. C'est Virginie Assali, la vice-présidente, la femme la plus influente au Québec en boxe. Ils ont annoncé qu'elle allait présenter 5 galas dans le premier trimestre. Okay? Mais moi, je vais vous le dire. La boxe professionnelle laisse beaucoup trop de traces. Les matchmakers, ils ont de la misère des fois à trouver des adversaires. Fait qu'ils laissent beaucoup trop d'indices. Fait que là, en voulez-vous des informations? Vous en voulez? Moi, tout vous dire. Ben, tout vous dire. Tout vous dire ce que je suis capable. Je peux pas inventer non plus. Là. Mais, premier gala, OK? C'est le 13 janvier au Centre Vidéotron. Bon, là, vous savez, Beterbiev affronte Callum Smith. On a MBD contre Rowan Murdoch. On a Andrew Maloney en championnat du monde. Ça fait ça, c'est bien intéressant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On va apprendre cette semaine l'adversaire de Iman Kataev. T'sais, attendez-vous à un adversaire que vous avez peut-être déjà entendu puis qui a déjà peut-être fait la limite à 168 livres contre quelqu'un qu'on connaîtrait. Puis là, lui, viendrait contre Kataev. T'sais, le vieux truc d'amener un 168 livres, mais qui est maintenant à 175, puis qu'on a déjà connu. T'sais. Ça, c'est des vieux trucs. Je vous les donne en mille. Kataev contre un nom connu, mais qui a tout fait sa vie à 168 livres. Ça, c'est ma prédiction. Mais là, on annonce 5 dates. 25 janvier 2024. Ça, je vais vous le dire déjà. Mary Spencer va faire la finale. Ça, il y a eu des traces sur Internet, puis j'ai l'œil assez vif, OK? Attendez-vous à ce que les gens qui ne soient pas à Québec soient à Montréal le 25 janvier. Et attendez-vous à ce que Mary Spencer affronte une fille qui a autour de 28 victoires et 2 défaites. Pourquoi? Excellente question. Pourquoi? Parce que Spencer, si vous avez regardé le combat entre Anna Rankin et Emma Cousin, Spencer bat les deux filles. C'est pas parce qu'elle n'est pas capable de se débarrasser de Femke Herman qu'elle ne peut plus être championne du monde. Fait que le 25 janvier, on relance Mary Spencer avec possiblement mettre une halle dans un combat important ou dans son combat le plus difficile. Est-ce qu'on pourrait y aller avec Luis Santana en demi-finale? Christopher Guerrero a battu un ancien aspirant mondial. On a en masse de jus pour faire une. Comment t'appelles ça, là? Un grand vase de jus chez Eye of the Tiger. Là, ce que je suis pas supposé savoir, mais que je sais tout. Okay, moi, je sais tout, là. Mais c'est parce que je l'ai déduit, ça aussi. On a annoncé que Vanessa Lopez-Joannis est disparue de la carte du 14 novembre. Moi, je vais vous faire une prédiction. Lani Daniel, la championne IBF, 9 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Très bonne boxeuse. C'est l'assassine souriante. Okay? Lani Daniel, okay, elle boxe autour de 180 livres. Elle est championne du monde des poids lourds à la IBF. Elle est faite à peu près sur le même moule que Vanessa. T'sais, un peu plus grande, mais 5 pieds 6, 180 livres. C'est à peu près comme Vanessa. Okay? Elle va gagner. Écoutez bien l'histoire. Elle va gagner le titre de la IBF en. C'était quand ça? T'es où? T'es où, Marie-Ève Albert? Elle va gagner le titre en mai 2023. Mais si ma mémoire est bonne. Est obligé de faire un GoFundMe ou genre d'aller chercher son argent personnel pour payer la sanction de la IBF parce que son promoteur est pauvre comme. Elle n'a pas de promoteur, tu sais, comme rajouté sur une carte. Si ma mémoire est bonne, OK? Fait que là, elle sait même pas si elle veut continuer parce que c'est un paquet de troupes boxées puis elle perd de l'argent. Puis si ma mémoire est bonne, elle trouve un moyen de se défendre son titre contre une fille de 3-0, Razel Mohamed, qu'elle va knocker. Puis là, elle trouve un promoteur. Mais tu sais, je vais vous donner une idée. Là. C'est une fille qui voulait lâcher à la boxe parce que c'était pas payant. Là. Elle était obligée de payer ses combats. Là. Et là, elle va affronter Desley Robinson le 2 décembre prochain. Desley Robinson, c'est, on la surnomme Lady D, Desley Robinson. C'est sa propre agent, qui elle aussi, là, ça fait pauvre fille. Elle n'a même pas d'agent. Elle s'agente elle-même. C'est une fille qui vient des 160 livres. Pauvre Densley. Elle boxe, un moment donné, elle boxait à 153 dans mes souvenirs. Il me semble que je l'ai vue à 151. Puis là, elle est rendue qu'elle se bat, tu sais, en haut de 175 livres. Ça devrait être pas trop compliqué pour Lani Daniel. Mais là, ils nous le diront pas, OK? Mais regardez, là. Daniel, elle s'arrange, ça y vite, tu sais. Elle a gagné son titre en mars. Elle s'est battue en juin. Oh non, je me trompe, j'étais sur l'autre fille. Je reviens, là. OK, ça va pas long. J'efface ce que je viens de dire. Je recule. Effacer. Daniel s'est battue en mars, en mai, en août. Puis en décembre, pensez-y, là, mars, mai, août, décembre, ça gagne facilement, comme je prétends, contre Lady D. Robinson, Camille Estéphane et ma nouvelle meilleure amie, Virginie Assali. Ils vont reculer un camion d'argent australien. D'ailleurs, j'ai appris cette semaine que Camille Estéphane a des cousins en Australie. C'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir le contrat de Iman Kataev. Camille appelle ses cousins. Ils vont déposer une enveloppe d'argent à Lani Daniel. Et on a un championnat du monde à Victoriaville entre Lani Daniel et Vanessa Lopez-Joannis. Cherchez pas midi à 14h. C'est ça qui va arriver. Il faut juste qu'il la laisse gagner le 2 décembre. Il faut juste qu'il fasse une négociation d'à peu près une semaine. Puis à mi-décembre, on a Anthony Marcotte à Victoriaville. Veston cravate. Championnat du monde à Victoriaville, Vanessa Lepage-Joannis, 22 autobus qui partent de Gatineau. Vous l'aurez appris ici en premier. Moi, je suis quasiment certain que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est un combat d'aspirant numéro 1 important. 7 mars, on est au casino. 11 avril, on est au casino. Bon, fait que. Ils sont assez occupés du côté de Eye of the Tiger Management. Je vous laisse. Il y a quelqu'un à la porte. Je continue après. Bon, tenez-vous bien, là. Pendant que j'enregistre, j'ai Martine Vaillard-Bisson qui refuse de monter chez nous, qui est dans son char en avant. Ça, c'est stressant, OK? Là, j'ai dit, monte. Non, au cas où je suis pas bien stationné. Je vais vous dire une affaire. Une chance que j'ai pas de blonde, parce que juste une meilleure amie, je trouve que c'est un paquet de troubles. Surtout pour le parking, genre. Mais c'est sûr que c'est pas évident, là. Ce parking, il y a comme plein de pancartes, puis... Moi, c'est pour ça que je suis en autobus. Là. C'est pas mal moins compliqué. Les résultats de la semaine dernière, donc de la semaine qu'on vient de vivre, il y a eu, bof, il y a eu beaucoup de gars là. Il y en a eu un peu, hein, quand même. Des gars là. En direct, là, je suis rendu. J'ai pas, malheureusement, vu le combat entre Cathy Taylor et Chantel Cameron. Et. Martine Vaillard-Bisson, qui est à côté de moi, refuse de parler en onde. Donc, je vais m'arranger. J'ai lu les résultats dans le journal. Alors, au premier round, Cathy Taylor semble avoir tombé selon 100% des gens parce qu'il y avait un coup. Mais l'arbitre, qui avait de la marde dans les yeux, n'a pas calé le 18. Ben, la chute. Après ça, le combat semble être dominé par Cathy Taylor, qui, selon mes amis de boxe au menu, a landé le double des coups de poing. Et ça finit que Cathy Taylor remporte la IBF, IBO, WBA, WBC et WBO. On peut s'attendre, selon Martine Vaillard-Bisson, qui me fait des signes à l'arrière, mais qui refuse de parler en onde, à ce qu'on ait une trilogie dans ce combat-là, parce que c'est ce qui a été dit après le combat au micro. Là, on est rendu à 2, donc s'il y a un troisième, ça fait ça, ouais, ça fait une trilogie. Dans les autres combats, j'ai ici Martine Vaillard-Bisson qui me rappelle que Sky Nicholson a battu Lucy Wildheart par TKO. Là, sinon, il y avait Gary Cully, Paddy Donovan, Selfa Barrett. On avait les classiques là, qu'on est habitué de voir. En Angleterre, ta chronique préférée, la chronique où je te lis les résultats sur BoxRec avec mon iPad. Là, il y a Martine qui est là, par exemple, elle voit tous mes secrets, puis elle voit que j'ai pas vraiment 9 feuilles mobiles, comme je vous dis à chaque semaine. Mais ouais, j'avoue que des fois, je fais le podcast simplement avec mon iPad. Il y a Kevin Lerena qui a battu Sénat Gachi. Ça, j'avais mis sur ma petite liste parce que Lerena, c'était la super vedette des 2,25, puis ben, il a perdu un round, puis là, ils sont en train de leur partir. Fait que je sais pas ce qui va arriver que Kevin Lerena. Et sinon, il y avait toute une carte de boxe. Moi, j'étais encore sous choc, OK? Je sais pas. Martine, t'as-tu vu ça? Non, Martine n'avait pas parlé. Je m'en allais l'ajouter dans mon... Je m'en allais poser une question en direct. Il y a C. Jogan Ergachev. Il s'est pointé... Lui, c'est un Kazakh. Non, un Ouzbek. Il s'est pointé à la pesée officielle avec un fouet attaché dans le cou, OK? C'est un méchant... C'est un animal, OK, l'Ouzbek. Et là, il affrontait Subriel Mathias pour le titre IBF World. Mais Mathias, je ne sais pas de quel... Je sais pas comment il est construit, Mathias, là. Mais il en a sacré une joie le vert à mon Ergachev qui a dit après le... Si ma mémoire est bonne, le 6e round, j'en peux plus. J'ai plus de jambes. J'ai plus de corps, j'ai plus de tête, puis j'ai plus de bras. Je suis complètement surtaxé. Laissez-moi tranquille. Puis il a décidé de ne pas y retourner. Il y a Vito Minelki, qui est un ancien prospect à 147 qui a gagné au premier. Il y a Sergei Lipinette, qui est un ancien champion, qui s'est fait battre, petite surprise, par Michel Rivera. Il y a... Et là, je vais essayer de vous dire le nom sans me tromper. Là. Il y a Pablo Vicente, qui est une ancienne superstar cubaine qui a pas gagné grand ronde contre Moumad Kadjou Yakupov. Et il y a Germal Charlot, qui, tenez-vous bien, a raté. Lui, il rate le poids de 3 livres. Après ça, on lui donne une heure pour perdre le 3 livres. Il en a repris 3 autres. Fait qu'il a raté le poids de 6 livres. Il a battu José Benavidez. Il vient de s'exclure possiblement d'obtenir le combat pour venger son frère contre Canelo. Et on a Hector Luis Garcia qui, si... Mais là, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, ce combat-là, mais au moins, c'est le podcast le plus honnête au monde. Je vous dis que je ne l'ai pas vu. Il a perdu contre Lamon Roach. Et bien sûr, en finale, on avait David Benavidez qui s'est débarrassé de Dimitrius Andrade. Aussi vite que Martine Malabisson s'est débarrassé du micro quand j'ai essayé de l'interviewer il y a 2 minutes. Si vous voyez ses yeux, ça fait peur. Donc, c'était ta chronique préférée, les chroniques des combats qui ont eu lieu la semaine passée. Bon, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a surveillé sur une de mes nombreuses feuilles? Je peux vous dire que la semaine prochaine... À Philadelphie, il y a mon boxeur préféré, Tevin Farmer. Lui, là, c'est mon préféré. OK, je vais vous dire pourquoi. À une certaine époque, il y avait 4 défaites, puis c'était un bum. Là, il y a quelqu'un qui a dit, t'as du talent, si t'arrêterais d'être un bum, si t'arrêtais d'être un bum, tu pourrais gagner. Il arrête d'être un bum. Et il devient le meilleur boxeur défensif que j'ai vu dans ma vie. Il n'est pas très bon à l'attaque, là, mais t'essaieras de le frapper, Tevin Farmer. Tu vas voir que c'est un moyen génie en défensive. Mais savez-vous quoi? Qu'est-ce qui est drôle? Ah, Martine, savez-vous qu'est-ce qui est drôle? C'est que Tevin Farmer, et là, j'ai des problèmes avec mon iPad, il a les deux yeux dans le même trou. Il louche. Fait que le meilleur boxeur au monde en défensive, c'est un gars qui a les deux yeux dans le même trou. Comme quoi, c'est pas vraiment grave de loucher. Parce que tu peux loucher puis avoir une très bonne vision de ce qui s'en vient. Fait qu'il y a Tevin Farmer. Et tenez-vous bien, j'ai échappé mon iPad après. Toujours en direct avec Martine Vallière-Bisson, qui est spectatrice de ton podcast préféré. La semaine prochaine, c'est Martine qui vient de justement me le rappeler. On a une carte à Nova Scotia, Sydney. au Canada, c'est Ryan Rosicky qui va se battre pour devenir aspirant obligatoire contre Olan Rewaju Durodola. Okay. Et sur la même carte, c'est ça que Martine est en train de mettre l'emphase là-dessus, on a Diana Tapia Castro qui vit maintenant au Canada, qui va affronter Jennifer Williams. Et il y a un de nos préférés ici, Kenny Sherry, qui va affronter Brett Beaton. Et on a Reda Benzaziz, le boxeur de... Comment il s'appelle? Seyé, le fils. Et j'ai Martine Malabisson qui vient de m'écrire rapidement sur une feuille mobile. Anthony Seyé, qui est l'entraîneur de Reda Benzaziz, qui va affronter Ramiro Garcia Lopez au Nova Scotia. Et ça, c'est une carte que notre bon ami Manny Montréal, je crois, est le genre de publiciste ou je ne sais pas trop, mais Manny est impliqué. On le salue à la maison. Et pendant ce temps-là, exemple, tu n'es pas capable d'aller en Nouvelle-Écosse parce que tu es plus au milieu du Canada. Mais je t'offre d'aller à Pickering Casino Resort en Ontario où Brandon Cook va affronter Luis Vidales Gutierrez. Et sur la même carte, on a Melinda Watpool qui va affronter Timea Nagy, qu'on a déjà vu ici, contre Vanessa Lepage, Joannis. Et on a Sukhdeep Singh Bhatti, un gars qui vend des arénas à lui seul, contre Yasser Yuczel. Dans un combat qui m'intéresse au plus haut point, on a Pierre Bernier, l'annonceur maison, qui a déjà annoncé des combats de Martine Vallière-Pisson, qui va être à Marseille, au Palais des Sports, pour le combat. Ça, c'est bien intéressant. L'ancien champion WBA, Giovanni De Caroli, l'Italien, va affronter Kevin Lele Saggio, le meilleur boxeur français à ne pas s'appeler Christian Mbili. Donc, moi, je vais y aller en France, mais je vais y aller via ma télévision. On a Félix Sturm, qui est rendu à 54 ans, qui va affronter Soukrou Altay. Félix Sturm, lui, il a 6 défaites. Il devrait en avoir juste une. Il s'est fait voler par De La Hoya. Non, il pourrait en avoir 10, si je m'étais trompé. Il volait souvent des adversaires parce qu'il était allemand. Puis une fois, il a volé. Il s'est fait voler par De La Hoya. C'était comme le retour du balancier. Je ne sais pas pourquoi il boxe encore. Il est plus en âge d'aller aux résidences soleil que d'aller sur le ring. Chronique nouvelle internationale, j'ai 8 feuilles présentement devant moi que j'ai pris des notes. Un podcast, c'est ça que j'expliquais à Martine Vallière-Bisson, un podcast de 45 minutes, les gens ne le savent pas à la maison, ça peut prendre entre 8 et 9 heures à préparer. Il n'y a pas un mot que je dis qui n'est pas pensé ou écrit sur une feuille mobile. Kurmel Motton, lui c'est drôle parce qu'il passe pro à 17 ans, c'est comme un génie, Floyd Mayweather est derrière. Mais à chaque fois qu'on demande à Floyd à quel point il est bon, Kurmel Motton, Floyd commence à parler de lui. T'sais. Floyd, il aime bien ça parler de lui. Kurmel Motton gagné au premier round hier, il y a 17 ans. On le fait boxer dans des états où ça ne prend pas 18 ans pour boxer. Benavidez, lui, il a dit, ben c'est sûr que si Canelo continue à niaiser de même, je vais affronter Dimitri Bivol ou Arthur Beterbiev à 175 livres. Terence Crawford a dit, je cite, Benavidez va sacrer une volée si, à Canelo s'il l'affronte. Qu'est-ce que j'avais d'autre? David Benavidez a déclaré, et je recite, Canelo est pris pour m'affronter puis plus rien faire d'autre. Germal Charlot a fait une belle performance malgré qu'il a raté le poids à peser. J'ai peur de Soubriel Mathias qui a déjà tué, et je cite, Maxime Dadachev dans un ring. Hier, il avait l'air d'un... Les gens ont dit que Soubriel Mathias, c'était le Arthur Beterbiev des 140 livres. Ça n'a aucun sens. J'ai de la peine pour un de mes boxeurs préférés, Dimitrius Boubou Andrade. J'espère qu'il va revenir. Un gaucher avec une très belle boxe, mais là, c'était trop. L'agressivité de David Benavidez. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre dans mes notes? Devin Haney veut affronter Keith Thurman après s'être débarrassé de Régis Progrès. Jaron Ennis, il dit que ça n'a pas de sens que Jermall Charlo n'ait pas fait le poids. Et c'est pas mal tout pour ton podcast préféré. Je vais réessayer voir si Martine ne voudrait pas faire une petite entrevue en conclusion. Le mot de la fin avec votre boxeuse préférée, Martine Vallière-Bisson.
Je voulais dire un gros merci à tous les auditeurs pour vos prières et vos pensées des derniers mois. Je voulais juste vous dire que je vous aime beaucoup, je l'apprécie énormément, puis je vais super bien. Merci à tous.